Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive! L'émission qui vous écoute!
Un micro à la dérive, à la dérive, à la dérive.
Un micro à la dérive, qui s'écarte de la direction normale sous l'effet des vents, des courants. Oui, mais un micro qui revient toujours à son port, chargé de sons et d'envie d'ailleurs. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Cette citation de Nicolas Bouvier, écrivain, photographe et voyageur suisse, pourrait parfaitement s'appliquer à Christophe Lemézeau. À la fin de l'été 2019, Christophe est en soins à l'hôpital Charcot. Il présente à l'équipe de soignants son projet de traverser la France à pied, en suivant plus ou moins une ligne imaginaire qui part de Caudan pour arriver à Nice chez son père. Il leur explique cela comme un besoin de se retrouver avec lui-même, lui qui a toujours eu cette passion de partir à pied et de faire des bivouacs. Les médecins sont au départ sceptiques, puis se laissent convaincre que cette proposition pourrait peut-être l'aider dans son processus de guérison. Ainsi donc, le 22 septembre 2019, Christophe Lemézeau part avec sa chaîne Faya et 40 kg de divers équipements répartis entre son chariot de marche et lui-même. Il va suivre cette diagonale du fou, celle qui va tout droit vers Nice, faisant fi des reliefs et autres contraintes environnementales. Évidemment, il a fallu, pour des raisons évidentes, contourner des autoroutes, des montagnes aux pentes trop abruptes. Mais au final, Christophe aura parcouru à pied environ 1450 km pour rejoindre la maison de son père. Sylvain Tesson avait effectué ce même genre de parcours en partant du sud pour rejoindre le Cotentin. Il parle dans son livre des chemins noirs. Ces chemins sont ceux qu'on a oubliés à force de privilégier les chemins pittoresques, légères et les voies vertes. Dans le premier épisode, Christophe Lemézeau explique la préparation du projet et le début du voyage. Dans ce deuxième épisode que vous allez maintenant écouter, on pourra découvrir ses belles rencontres ou comment sa relation avec sa chaîne Faya a évolué. Et enfin les premiers froids de l'automne en Ardèche avant d'arriver à Nice. Et puis on écoutera aussi Sylvain Tesson qui nous parlera de ses fameux chemins noirs et de son besoin de repartir suite à son grave accident. Et vous allez voir comment les témoignages de Sylvain Tesson et Christophe Lemézeau se rejoignent.
Un peu de documentation dans un petit bouquin et puis je me suis rendu compte que ce petit bouquin ne servait pas à grand chose parce qu'au final, les plantes, il n'y en a pas des milliers. Quand on a commencé à prendre goût, je mangeais à peu près 5-6 plantes, jusqu'à l'Ardèche, des fruits. C'est vrai qu'en France, on s'aperçoit que dans tous les villages, il y a des pommiers, des poiriers. Mmh. Et aussi une grosse solidarité dans les villages traversés. Très régulièrement, on m'a offert des légumes, on m'a offert de la viande. C'est-à-dire que des gens avec qui j'ai discuté, je suis reparti avec des terrines, je suis reparti même une fois avec du foie gras, avec des steaks de Limousine. Donc l'alimentation, vraiment, ça n'a pas été un souci.
Globalement, tu as été bien accueilli par les gens qui t'ont voyé traverser leur village, leur chemin?
Très bien accueilli, mais très peu accueilli, parce qu'on s'aperçoit qu'à cette saison, les gens travaillent. Donc c'est punaise. J'ai volontairement choisi d'éviter les zones touristiques, donc le moins de GR possible. Et donc, j'ai beaucoup vu d'agriculteurs, de chasseurs, d'anciens, beaucoup d'anciens qui sont chez eux. Et oui, l'accueil, j'ai eu vraiment. J'ai passé vraiment des très bons moments avec des gens. Je me souviens d'une dégustation, dans une petite taverne de vin pour choisir le vin pour la carte 2020. Je suis rentré dans la taverne, il y avait le patron seul avec deux de ses amis qui étaient en grande discussion pour choisir les vins qui allaient aller avec les mets. Donc il a accepté de me faire manger, et puis au bout d'un moment ils m'ont interpellé, et puis un des amis du patron m'a dit: mais toi tu mets à ta carte que les vins qui te plaisent, mais il serait bien que tu mettes des vins qui plaisent à tes clients. Et là il y a un breton, et les bretons ils connaissent rien au vin, donc tu vas le faire goûter. On est parti sur une grande discussion pour savoir l'accord, et au final effectivement ils sont mis d'accord tous les trois pour plutôt choisir les goûts du breton qui étaient un peu plus en accord avec les goûts des touristes que leur goût de... Et c'est là que je suis reparti avec un sandwich au foie gras, un magret de canard, de quoi manger pendant 4 jours en fait. Donc, et ensuite, j'ai aussi les protéines qu'on traverse la France, une des façons de les absorber assez facilement, c'est le fromage en fait. C'est d'acheter du fromage, pas en supermarché, parce que pareil, les supermarchés, j'ai dû y mettre les pieds 4-5 fois. C'est trouver, aller voir une ferme, demander de l'eau, puis en discussion, si on voit que c'est une ferme sur l'élevage, demander si on peut pas acheter un 5 hectares, une tome. Et bon, c'est vrai que c'est lourd, mais c'est aussi l'avantage du chariot, c'est-à-dire qu'un fromage de 4 kg, ben, j'hésitais pas. Le fromage, on m'offre un fromage de 4 kg, je vais manger dessus pendant 4-5 jours, j'ai tout ce qu'il me faut dedans. Donc, et ça m'est arrivé très très fréquemment en fait.
Le 12 octobre, ta famille te rejoint à Vendée pour la dernière fois et avant ton arrivée à Nice. Ensuite, tu seras seul, à part quelques rencontres avec des chasseurs, mais globalement, tu vas passer la plupart du temps seul à traverser la France.
Oui, alors c'est mes filles qui m'ont rejoint deux ou trois week-ends, tant que c'était faisable. Donc effectivement, les enfants c'était en Vendée, donc ils ont marché deux jours avec moi. Et là, j'ai pas souffert de la solitude du tout parce que bah, d'abord j'étais pas seul, j'étais avec ma chienne, et ensuite c'est parce que j'ai rencontré, c'est vrai que les rencontres étaient rares mais étaient toujours d'une grande qualité, d'une grande chaleur humaine, et donc c'est vrai que le fait de rencontrer plutôt peu de gens mais des gens vraiment chouettes, bah, ça compense le fait de ne pas vivre en ville ou pas de voir des gens tout le temps, et c'était un peu aussi ça que je recherchais, c'était aussi une espèce d'ermitage mais en mouvement, c'est-à-dire que je voulais pas faire justement un ermitage qui aurait pu être aussi une autre solution, mais un peu, bah, toujours pour citer Tesson, sur son hivernage au lac Baïkal, où il est resté 6 mois dans une cabane. Mais voilà, moi je voulais pas ça, je voulais plutôt un ermitage, voir le moins de gens possible, mais plutôt en avançant, c'est-à-dire qu'en faisant une activité qui me permette voilà, c'est de la chimie, mais de sécréter toutes ces molécules qui permettent de soigner de l'anxiété, des douleurs aux épaules, des machins, tout ça. Donc le mouvement était nécessaire.
Sylvain Tesson, la grande librairie.
Alors voilà, donc c'était simplement pour ça que j'avais la certitude que la marche allait me permettre non seulement de reconquérir les forces musculaires, ça c'est ce qu'on appelle la rééducation, mais également les forces intérieures. Parce qu'évidemment, cette chute m'avait très légèrement déprimé. Et je savais que je pouvais demander à la nature, à la pratique du terrain, aux nuits, à la belle étoile, de me revivifier, voilà, intérieurement.
Vous posez la question vous-même dans ces termes. Quel intérêt de hisser ce corps en loc jusqu'au nord d'un pays en ruine ? Vous partez effectivement du Mercantour et puis vous traversez la France, comme ça, jusque dans le Cotentin, en diagonale, la diagonale du fou.
Oui, c'est-à-dire qu'au début, ça a été difficile. Bon, moi, je partais, je traversais la Provence, la montagne de Lure, le Mont Ventoux, j'étais quand même un peu brinque-ballant, quoi. Je sortais de l'hôpital, j'étais à moitié, c'est ce que j'appelle être en loc, quoi. Je clopinais. Puis peu à peu, tout allait mieux. Et alors, quand je dis le pays en ruine, en essayant de faire cette analogie, c'est parce que le pays en 50 ans, et c'est pas à Pierre Rabhi que je vais l'apprendre, parce que c'est une de vos spécialités de regard, le pays en 50 ans, enfin en 5 décennies, grosso modo après la guerre, a paysagèrement connu une espèce de mutation, quoi, qui est, qu'on peut dire, effroyable. C'est-à-dire que tout à coup, la triple action de l'industrialisation, de la décentralisation, de la productivité, a transformé ce qui avait été l'œuvre de milliers d'années de labeur paysan.
Moi, Stéphanie, à Berne, en Suisse, je peux écouter et réécouter Un micro à la dérive sur radiobalise.com.
Bah, merci à Stéphanie qui vit en Suisse et qui écoute Un micro à la dérive via Internet. Vous pouvez toujours écouter et réécouter les podcasts de Un micro à la dérive. On continue avec Christophe Lemézou qui a traversé la France de façon assez originale, c'est-à-dire le choix du bivouac, avec 40 kilos en charge via un chariot d'accompagnement. Je sais pas comment
chariot de marche.
Et puis un chien qui t'a beaucoup suivi, qui t'a beaucoup aidé, qui t'a beaucoup aussi accompagné. Quelle relation t'as avec ton chien? Tu as parlé au début de l'interview.
Alors, c'était une relation vraiment de... Bah, ce chien-là, je l'ai depuis 4-5 ans, un peu plus même. Donc au départ, j'avais une relation d'un maître à un chien classique. Et on est resté dans cette relation-là, mais sauf que ben, la relation a évolué. C'est-à-dire que je me suis aperçu au bout de quelques semaines que ben, on formait une meute, en fait. On n'avait plus besoin de se parler. C'est-à-dire que moi, je parle au chien, je leur raconte pas ma vie, mais je leur parle pour donner des ordres. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu que c'était plus nécessaire. Elle a commencé à prendre de l'autonomie, c'est-à-dire à être toujours solidaire, parce qu'elle adore marcher, la meute c'est important, mais elle a commencé à prendre un peu plus d'autonomie, à partir, s'éloigner du chariot. Et ça a été une relation, ouais, j'ai découvert mon chien en fait, j'ai découvert ses capacités, sa ténacité, ses peurs aussi, parce que j'ai aperçu qu'elle avait peur de se retrouver seule en fait. Donc j'ai retrouvé ça aussi, et puis je l'ai vu dans la plénitude de ses moyens, c'est-à-dire qu'un chien il est vraiment fait pour ça, pour marcher, pour courir, et donc j'ai vu un chien dans son élément, qui est son élément, je pense, historique et naturel en fait.
Alors le 25 octobre tu arrives dans la Creuse, hein, sur le plateau des 1000 vaches, les nuits sont fraîches. Le 2 novembre t'as un gros problème, c'est que tu n'as plus de bouteille de gaz.
Non, j'avais pas de gaz en fait. Je cuisinais au bois. J'avais un petit réchaud qui me permettait de brûler tout type de bois. C'était un petit réchaud en inox qui fait un petit poêle. Et c'était un problème de batterie en fait, le 22. Donc c'était un problème. Je me suis retrouvé plutôt, comme j'avais choisi pour rassurer ma famille, donc d'avoir ce compte Instagram et d'avoir une balise, donc une balise de repérage. C'est pas une balise satellite, mais c'est une balise qui passe par le réseau téléphone. Et je me suis retrouvé en panne de batterie, c'est-à-dire que pas de soleil, j'avais un petit capteur solaire mais pas de soleil, et pas de prise le soir pendant plusieurs, donc j'ai été un peu coupé de ma famille pendant 3-4 jours, ce qui m'a impliqué de trouver un téléphone pour les rassurer en fait, donc ce qui m'a généré un stress, mais par rapport au fait que eux ils allaient être inquiets en fait, moi j'étais pas du tout en danger, c'est juste que j'avais plus d'énergie quoi. Donc dès que j'ai pu recharger mon téléphone, ben, j'ai rappelé tout le monde, et je leur ai expliqué que cette balise là, voilà, c'est une balise en cas de danger on peut déclencher un SOS, mais si on n'a pas de message, c'est pas parce qu'il y a un problème, c'est parce qu'il y a plus d'énergie en fait.
Quand tu dis j'appelle tout le monde, c'est aussi les gens qui étaient au départ avec toi à l'hôpital Charcot, les médecins, ou bien eux non, ça y est, il n'y a plus de relation formelle?
Non, j'avais plus de relation avec les médecins de Charcot, j'en ai plus du tout après. J'avais des relations avec mon médecin traitant Non, quand je dis j'appelle tout le monde, c'était vraiment le cercle familial, le cercle proche, mes enfants, ma mère, mon père, enfin ma sœur, voilà, c'est vraiment le cercle très très proche, surtout ma maman qui était relativement inquiète sur ce voyage-là, donc c'était vraiment, je savais qu'il fallait pas que je reste 5-6 jours sans donner de nouvelles. Donc dès que j'ai pu, ça m'a un peu obligé à faire un peu, à descendre un peu. J'étais sur une ligne de crête, le plateau de 1000 vaches, ça porte mal bien son nom, mais c'est pas un plateau en fait. Une fois qu'on est en haut, ça monte, ça descend. Donc je m'étais mis sur une ligne de crête pour éviter justement d'avoir trop de dénivelé dans la journée. Et bon, là j'ai été obligé de faire un écart de 30 km pour redescendre, retrouver un petit village, me poser une journée, recharger tout ça, repartir et rassurer tout le monde et repartir en fait.
Alors le 9 novembre, pour la première fois, tu te mets en scène avec ton pied, avec un pied pour l'appareil photo numérique. Ça, c'est sous l'influence de la famille qui regrette qu'on ne te voit pas assez et que finalement on voit que les paysages, mais pas toi, Christophe, en plein effort. C'est un peu un effort supplémentaire quand même de se mettre en scène quand on marche et penser à chaque fois.
Ah oui, c'est un effort supplémentaire, c'est pas dans ma nature du tout, mais c'était pour faire plaisir à ma maman en fait. Donc ma mère me dit, mais ouais, tu envoies des photos, mais on voit que ton chien avec ton chariot et ton machin. Et bon, j'ai dit, je vais essayer de me mettre en scène. Effectivement, après, c'était une petite contrainte parce que j'ai pas fait 46 000 photos, donc j'ai essayé de faire une photo. Je me suis fait un pied en bois tout con avec mon retardateur de téléphone, et bon, ça m'a effectivement obligé de faire quelques petites mises en scène, déposer le chariot, courir, déclencher, puis voilà. Bon, après, ça a participé aussi à une espèce de petite activité. Seul truc qui a pas fonctionné, c'est le chien qui comprenait rien quand même. Bon, il a fait un demi-tour à gueuler parce que j'ai un chien qui est assez autoritaire dans la marche en fait, c'est elle qui dit quand on part, donc elle aboie quand, donc elle me voyait revenir en arrière chercher le chariot ou m'attendre et que je partais 10 mètres devant, elle aboyait comme... Et sur toutes les photos, on la voit toujours, on voit toujours son derrière parce qu'à chaque fois elle revient vers moi, et donc j'ai pas réussi à la mettre en scène du tout en fait. Si les seules fois où j'ai réussi à la mettre en scène, c'est lorsque je l'appelais ou je la prends elle en photo, je l'appelle, donc là on la voit prise en photo de face, mais parce qu'elle revient vers moi en fait. Donc elle n'est pas dans le sens de l'avance de la marche.
En tout cas, c'est quand même pas mal de voir la personne incarnée, et puis pas seulement voir des paysages, on te voit avec ton chariot et puis ton chien, ça, je trouve ça pas mal. Le 10 novembre, il fait moins 5 degrés, ta gourde d'eau est glacée. Là, les chemins sont parfois très escarpés, c'est vraiment la partie la plus difficile.
Ouais, c'était l'Ardèche, il y a eu des grandes dépressions sur la France, avec des grandes chutes de neige, des grands coups de vent, mais non, ça n'a pas été difficile en fait, parce que bon, je me suis fait avoir une nuit, mais bon, bah, je le savais, hein, pas étourderie, je ne pensais pas que ça allait geler cette nuit-là. Donc j'ai laissé ma gourde dehors, donc effectivement, j'avais de l'eau, mais dans une gourde, donc pas moyen de. Ma gourde, je ne la mettais pas sur mon feu parce que je l'aurais détériorée. Donc bah, ça m'a servi de leçon, j'ai juste été chercher de la neige que j'ai fait fondre, et là j'ai eu mon eau. Et les autres soirs, quand il a commencé à geler, je ne mettais pas de l'eau dans ma gourde, je mettais l'eau dans ma gamelle. Donc ça gelait aussi, mais l'avantage de la gamelle, c'est que je la mets sur le feu. Donc le matin, je faisais mon café, mes céréales, mes machins, mon petit déjeuner, avec un bloc de glace, mais qui était possible de le faire couler. Mais j'ai pas souffert du froid. Si un seul moment, c'est la fin de l'Ardèche où j'ai pas de mémoire des noms, mais il y a une grande ville qui est au bord de la rivière Ardèche, la grande ville de Canton qui sépare l'Ardèche de l'Ardèche méridionale. Donc là, ça a été une étape où il a beaucoup neigé, où donc les chemins de montagne étaient rendus dangereux. Donc je les ai pas pris. Donc pour descendre de l'Ardèche, j'ai pris des petites routes de montagne. Donc les routes étaient coupées, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune voiture, donc j'étais sur des routes de montagne, mais je faisais la trace en fait, il n'y avait même pas de chasse-neige, mais bon, ça restait des routes, donc sans danger, juste à suivre le chemin. Et donc là, je suis arrivé dans ce village-là, après une étape très compliquée, très fatigante. Donc là, j'ai pris une nuit d'hôtel en fait, pour un peu recharger les batteries. Sur tout ce voyage-là, j'ai pris deux nuits d'hôtel, surtout de la traversée. Une plutôt par confort à la sortie du Gévaudan et une à la sortie de l'Ardèche pour un peu recharger les batteries. Et paradoxalement, j'ai très mal dormi en fait. J'étais super content parce que j'avais chaud, il y avait une douche, voilà, je n'avais pas à faire mon feu, donc c'était vraiment une petite fête. Mais dès que j'étais au pieu, ma chienne Faya, elle, j'étais obligé de carrément là, parce que bon, les hôteliers acceptaient qu'elle dorme dans ma chambre. En fait, dès que j'expliquais le voyage, j'ai eu jamais eu de soucis. Les deux, ils m'ont dit, bah oui, pas de soucis, elle dort avec vous. Mais j'étais obligé de la sortir. Donc elle n'a pas pu dormir. J'étais obligé de la mettre dehors, attachée, même dans l'Ardèche où il faisait moins 10 le soir. J'étais obligé de la mettre dans le garage, au pied du sac à dos. Et moi, j'ai très mal dormi, la deuxième nuit un peu mieux. Et bon, après, j'étais content de retrouver mon bivouac le lendemain, d'avoir profité d'une bonne nuit, d'un bon petit resto et d'un bivouac naturel.
Quand tu dis que ta gourde a glace à moins 5 degrés, que en mettant à l'intérieur, elle ne glaçait pas, je ne comprends pas comment tu pouvais tenir de la chaleur dans ta tente.
Ah, si, dans tous les cas, la gourde est glace. C'est-à-dire que si on ne veut pas qu'elle glace, il faut la mettre dans le duvet. Mais c'est très désagréable de dormir avec une gourde dans le duvet. Donc, elle va glacer. Donc, vaut mieux avoir de la glace dans une gamelle, que la gamelle qu'on va mettre sur le feu. Alors que une gourde glacée, déjà, on peut la casser, la gourde peut éclater. Et on peut perdre sa gourde, et alors que dans une gamelle, j'avais une gamelle qui allait sur le feu, c'était pareil, c'était de la bidouille, c'était une gamelle d'une machine à pain que j'avais récupérée, donc une gamelle unique hein, qui faisait tout. Mais le soir, je vidais mes 1,5 litre d'eau dedans. Donc le matin, j'ai rarement eu 1,5 litre de glace, souvent il y avait une pellicule de glace d'un centimètre, 1,5 cm. Donc il suffisait de mettre ça sur le feu, et puis bon, la glace redevenait liquide et chaude.
Et l'eau servait à faire tes soupes avec les orties, le plantain
Ouais, l'eau servait à ça, au café, ça va à la toilette, à laver le linge. Donc l'eau chaude, c'est au petit thé réconfortant du midi, à cuisiner, quoi, et puis à s'hydrater. Après l'eau, au départ, je suis parti aussi, c'est un truc, c'est pareil, on nous a toujours appris... Quand on boit, on a le droit, en tant que bon petit Européen, on boit qu'au robinet, l'eau des ruisseaux est dangereuse, Donc je suis parti avec un filtre, avec des pastilles chimiques, et puis au bout de 4-5 jours, j'ai trouvé cette chose tellement dégueulasse que j'ai balancé ces trucs-là, et je me suis habitué à boire de l'eau des ruisseaux. Donc avec un certain débit, de l'eau claire, j'ai longé le Blavet, j'ai pas été boire l'eau du Blavet, mais quoi que ça a pu le faire, et j'ai absolument été malade une seule fois, et ça m'a enlevé une épine du pied, parce que ce problème de l'eau, si on se dit, voilà, sur un périple comme ça, il faut absolument qu'on trouve un robinet tous les soirs, c'est comme le moyen de chauffage pour la nourriture, c'est une contrainte supplémentaire qui est très très dure à assumer.
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Traverser la France à pied, Christophe Lemézeau, épisode 2. Et là, je pense à la partie hivernale, quand il neige, il n'y a pas de plantes pour se restaurer, comment tu fais?
Non, alors ça, c'est là que ça a commencé à être problématique, c'est-à-dire quand il n'y a plus de plantes, et surtout en Provence, il y a des plantes, mais je ne les connais pas. Donc là, j'ai recommencé à acheter, donc acheter des légumes, acheter de la viande, acheter de... Donc là, le budget nourriture s'est mis un peu à monter. Ça m'a obligé aussi à descendre plus souvent dans les villages. Et en gros, les quatre dernières semaines, j'avais plus de plantes du tout, plus rien du tout en Provence que je connaissais. En fait. Plus de fruits, surtout. Parce que, bon, plus de fruits que je connaissais. Donc voilà,
j'étais obligé. Là, on parle des fruits sauvages. Hein.
Oui, des fruits sauvages. Ouais, plus de noisettes, plus de pommes, plus de poires. Et c'était plus la saison, quoi. C'est-à-dire qu'elles étaient toutes récoltées, il n'y avait plus. Et donc là, je suis retourné dans les. J'ai essayé de retourner un maximum dans des petites épiceries de village. Donc pareil, évitant les supermarchés. Ouais, une chose importante aussi par rapport à la nourriture sur un périple comme ça, c'est les glucides, donc le pain. Donc j'ai choisi de faire mon pain. Pareil, c'est pas pour un défi, pas pour faire le super trappeur, mais par facilité en fait, de se dire qu'on n'est pas obligé de trouver une boulangerie, on n'est pas obligé de. Donc c'est beaucoup plus facile à trouver 2 kg de farine qui vont faire la semaine. Donc en gros, je faisais mon pain, donc c'est, pour le coup, ça s'appelle un pain de trappeur, donc c'est un pain qu'on fait à la poêle, sans levain. Donc c'est de la farine, du sel et un peu d'huile. On fait une pâte, donc comme il n'y a pas de levain, on n'est pas obligé de la faire la veille, on la fait juste avant de la consommer. On fait une galette de la taille de la poêle qui va sur le brûleur, et en fait je faisais mon pain pour la journée, le matin. Donc le matin avant de partir, le pain chaud, et puis le pain le midi. Et après, ça ne m'a pas empêché d'acheter du pain. J'ai découvert des boulangeries en traversant la France, mais extraordinaires, des boulangeries incroyables. Donc, j'ai un souvenir d'une boulangerie sur le plateau d'Albion, une boulangerie où les gens venaient de plus de 60 km pour acheter le pain. On serait cru dans un film de Pagnol, c'est-à-dire qu'un jeune homme d'une trentaine d'années qui, avec un fournil qui est dans la boutique, le fournil à bois, le gars il est ouvert que 3 jours par semaine, et il fait un pain magnifique. Donc là j'ai eu le droit, pareil, comme il savait que je voyageais, le matin je suis arrivé, il m'avait préparé un pain avec des lardons dedans, un énorme pain, ce qu'ils appellent un pain de bûcheron, avec plein de lardons, plein de fruits secs dedans. Donc ça m'a fait mes repas pendant 3 jours, un pain d'1,5 kg. Et donc voilà, quand je pouvais trouver du bon pain, mais autrement j'ai fabriqué mon pain sur tout le voyage en fait.
Le 19 novembre, il y a le chien, enfin ton chien, comment s'appelle ton chien au fait ?
Faya.
Faya, qui t'abandonne subitement pour aller courser un sanglier.
Alors ça a été relativement dramatique comme expérience. C'est-à-dire que lorsqu'on était dans les chemins...
Dans l'Ardèche, hein, je crois encore.
Non, c'était au départ de l'Ardèche. On était vraiment dans une zone de transition après le Massif central, dans une zone très très montagneuse, très sauvage, après le Gévaudan. Ma chienne, depuis le départ, j'avais l'habitude de la laisser vagabonder, donc elle restait à proximité lorsque j'étais loin des routes, donc la plupart du temps. Et donc ça lui arrivait de voir un écureuil, de le courser, je m'inquiétais pas, 10 minutes après, ou un quart d'heure, même une demi-heure au grand max, souvent je la retrouvais devant moi, à me retrouver, à m'attendre. Et là, dans ce passage-là, un sanglier a traversé notre route et elle est partie à sa poursuite. Et donc pareil, je me suis pas inquiété, je me suis posé, j'ai profité de prendre mon petit goûter. Et bon, la demi-heure s'est passée, l'heure s'est passée, donc là j'ai commencé les recherches en escargot, c'est-à-dire en partant de mon point et en tournant autour en faisant une ellipse. Et donc je me suis rendu à 3 km de mon point de mon chariot, donc il a fallu rentrer, toujours pas de chienne. Et donc là, pour moi, sachant que j'étais en période de chasse, il y avait énormément de chasse en cours, j'entendais des chiens de partout, elle avait son sac, donc c'était un sac à dos qu'elle ne pouvait pas enlever seule. Parce que c'est un sac à dos ambiance sac de sauvetage, donc pas possibilité de l'enlever seul. Donc le risque de se coincer dans un barbelé, pas pouvoir. Donc voilà, j'étais très très inquiet. Donc je me suis posé, j'ai monté le tarp en me disant si jamais elle doit revenir. Mais j'étais vraiment dans l'état d'esprit de 20h à minuit 1h, à 10h que le voyage était fini en gros. Je ne me voyais pas continuer ce voyage-là seul. Pas le fait que j'avais pas envie d'être seul, mais voilà, comme on avait commencé avec cette chaîne là et puis perdre son animal, ça reste Et vers les 1h du mat, dans un sommeil léger, j'ai entendu comme dans un rêve, je croyais rêver, j'ai entendu des jabements parce que d'habitude elle dormait à ma tête ou à mes pieds dans le tarp, enfin dans la bâche. Et donc dans un demi-sommeil, j'ai dit Faya rentre, et là elle est rentrée complètement effrayée. Et elle s'est blottie vraiment à la tête et elle n'avait plus son sac à dos. Donc, après, ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète, mais moi je pense qu'elle est dû tomber sur quelqu'un qui n'était pas pressé de la rendre. Et qui, voilà, et comme c'est une chienne qui est relativement fugueuse et qui arrive à s'échapper, c'est un gros problème chez moi pour la garder dans le jardin. Donc, elle a réussi à retrouver la trace, retrouver la route en pleine montagne. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision, dans la journée, elle marchait attachée. Donc, elle a terminé le voyage, elle m'a fait la gueule. Et quand je dis fait la gueule, c'est réel. C'est-à-dire que cette chienne, quand elle fait la gueule, elle ne mange pas pendant 3 jours. Quand je lui donne à boire, elle ne va pas boire. C'est-à-dire qu'elle va aller boire dans les ruisseaux, surtout pas si je lui donne. Je l'appelle pour dormir à ma tête. Non, elle dort à l'extérieur du tarp, attachée forcément. Mais voilà, donc elle a fait la gueule pendant 3 jours. Et puis finalement, c'est rentré dans l'ordre et elle a fini le voyage dans la journée, attachée, avec des moments de liberté un peu contrôlés. Ou le soir, quand on arrivait au bivouac, mais pareil, la nuit attachée. Parce que jusqu'à là aussi, la nuit, ça lui arrivait de se lever, de se barrer pendant 1 heure. J'étais pas inquiet parce qu'elle revenait. Donc suite à cette expérience-là, elle a fini attachée.
Le 29 novembre, donc on arrive à quasiment la fin du voyage, qui s'est terminé le 12 décembre, je crois, non ?
Ouais.
Tu écris, hâte de vous revoir, et puis aussitôt après, ou plus tard dans la journée, envie de fuir, envie de partir vers l'Europe de l'Est. En fait, qu'est-ce que tu voulais dire par ces deux messages ambivalents ?
C'est pas ambivalent, c'est que j'avais hâte de revoir mes proches, de revoir mes filles, de revoir ma famille, j'avais hâte. Mais voilà, j'étais tellement bien dans cet élément-là que je n'aurais pas eu cette contrainte-là. Enfin, contrainte, c'est pas une contrainte, mais j'aurais pas eu ce besoin de revoir mes proches, de revoir mes amis. En plus, j'aurais eu la possibilité financière de le faire. J'aurais bien souhaité continuer ce voyage-là pour le transformer en un tour de l'Europe. Par les chemins, par les pays de l'Est et les pays du Nord. Mais bon, ça c'est un projet qui reste dans ma tête pour ma retraite. Je suis arrivé à Nice, mais je repartirai, oui, c'est sûr, je repartirai.
Alors, quelle leçon tu retires de cette expérience, même si ce n'était pas ta première expérience de voyage hein.
C'était ma première expérience au sens de voyage en solitaire sur une longue durée. Donc une leçon, je ne sais pas si je peux tirer des leçons d'un voyage comme ça. Je sais que ça a été une parenthèse vraiment par rapport à mon souhait de santé. Ça a été une parenthèse, c'est-à-dire que pendant mes 3 mois, j'ai pas eu du tout de symptômes. J'avais des médicaments. Je suis arrivé à Nice avec pratiquement un sevrage à zéro. J'avais des douleurs aux épaules liées à une neuropathie liée à un métier usant, le métier des lagueurs qui m'a un peu usé les épaules. Pendant 2 mois et demi, j'ai pas eu de douleur, malgré le fait que j'avais un effort physique quotidien. Et... Donc ouais, ça a été une parenthèse. Pour moi, c'était une parenthèse vraiment extraordinaire que je souhaite revivre un jour, parce que c'est vrai que c'est tellement agréable que... Après, je dis pas que la solitude, c'est une fin en soi. Je peux très bien le faire avec des gens, avec mes filles, avec des copains. C'est le fait de partir seul, c'était pas... Voilà, c'était le moment qui voulait ça. J'avais besoin de ça, mais je suis pas sûr de vous rééditer l'expérience aussi longtemps. Ou alors, carrément à l'extrême, ou alors plus longtemps, à ce moment-là. C'est plutôt un an de voyage, 2 ou 3 ans, mais bon, plutôt à un moment où on n'a plus besoin de travailler, et où on a un peu d'argent, parce qu'il faut quand même un peu d'argent, même si ce n'est pas un budget énorme, il faut un peu de ne serait-ce.
Ça coûtait combien à peu près en gros, 2 mois et demi de marche
hein. Ben, 2 mois et demi, en gros, moi j'avais besoin d'une centaine d'euros par semaine, plus le billet de train pour rentrer. Donc à peu près 600-700 euros, avec une nuit d'hôtel ou deux. Donc ouais, on arrive, c'est un voyage qui on doit pas être loin des 1 000 euros, je pense. Après bon, je suis pas très doué pour les comptes, donc j'ai pas fait de compte, mais bon, ça m'a pas empêché de rentrer dans le rouge au niveau de la banque, parce que bon, je suis passé en demi-traitement à mon travail, et bon voilà, c'était...
Fin du 2e épisode d'Un micro à la dérive, consacré à la traversée de la France à pied par Christophe Lemaiseau. Dans le prochain et dernier épisode, Christophe Lemaiseau nous expliquera comment s'est achevé son voyage à Nice, les retrouvailles avec son père qui l'y attendait, et enfin le bien que cette grande marche lui a procuré dans cette lutte contre ses crises d'anxiété. Un parallèle radiophonique sera monté en alternant les voix de Sylvain Tesson et Christophe Lemaiseau, qui expliquaient chacun de leur côté en quoi cette traversée de la France dans cette diagonale du vide, celle du bivouac improvisé dans des lieux encore sauvages, les avait aidés à se reconstruire mentalement et physiquement. J'ai eu un grand plaisir à vous livrer ce reportage, et si vous-même vous êtes intéressé par ce genre d'aventure radio, je vous laisse écouter l'annonce qui suit, et sur ce, à la semaine prochaine, même jour, même heure.
Un micro à la dérive.
L'émission de reportage Un micro à la dérive vous propose de devenir l'un de ses producteurs, animateurs. Vous êtes curieux? Vous avez le sens du contact? Vous voulez traiter des sujets de société? Alors rejoignez-nous. Vous serez formé aux techniques d'interview et de montage. Pour plus d'informations, contactez Gaëtan Priori au 06 521 585 23, 06 521 585 23, ou par mail @lapostepoinet. Merci de rester sur Radio Balise.